Vous êtes sur RFL 101. Tout de suite, RFL reportage.
Bonjour, je t'écoute. RFL 101, je suis en compagnie de SK Durman. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez écrit un livre, oui. La forteresse perdue,
oui.
Le diable de Sildir.
De Sildir,
c'est un roman.
C'est un roman, en effet.
D'abord, on va faire une petite présentation. Vous êtes parisien.
D'origine.
Vous êtes installé à Tours. Pourquoi vous êtes installé à Tours en 2005?
Alors, je me suis installé à Tours, non pas en 2005. 2005, c'est la découverte de Tours. On s'est installé à Tours en 2013. Pourquoi Tours? Par amour de la ville, en fait. On a trouvé que la ville était super sympathique, dans un environnement très serein, qu'on n'était pas dans le stress de la vie parisienne, qu'on n'avait pas de métro et de RER. Et on s'est dit, c'est une ville faite pour nous. Et comme nous travaillons avec Mofa et moi tous les deux à Paris, évidemment, nous avions besoin d'une ville à laquelle accéder rapidement par le TGV, quand il fonctionne évidemment. Pour être rapidement à Paris, je suis personnellement formateur, donc mes missions sont forcément toutes concentrées malheureusement à Paris pour l'instant, où j'assure des cours en bureautique et en communication.
Et vous avez aussi une maîtrise, vous avez fait des études de droit.
En droit des affaires.
Droit des affaires.
Ouais.
Mais de quoi on passe de... Parce que quand même, le droit, c'est technique, c'est...
Alors, comment on passe de droit...
Vers l'écriture
Alors, en fait, à 14 ans, je voulais être avocat. Donc, le droit s'imposait par lui-même. Et à 17 ans, j'ai décidé de devenir écrivain. Par réaction contre ma prof de français, qui me trouvait nul en écriture, qui lisait tous mes devoirs hors sujet. Je ne sais pas si c'était pour m'humilier ou c'était pour me faire de la pub. À l'âge de 17 ans... J'ai décidé d'écrire pour prouver à un prof de français que je savais écrire du français. Le hasard a fait qu'un de mes camarades de classe avait un oncle qui travaillait chez Robert Laffont, qui était lecteur-correcteur, qui m'a accompagné entre 17 et 20 ans pour m'apprendre à bien écrire.
Mmh.
Et devenu mon ami. Mmh. Et donc, on a travaillé sur un premier manuscrit ensemble. Malheureusement, le cancer des imprimeurs, le saturnisme, l'a emporté. Et je n'ai pas pu lui dire au revoir parce que je n'ai pas su qu'il était mort. Et ça m'a fait une grande peine parce que c'était un monsieur qui aurait pu être mon grand-père.
On peut comprendre l'amour des mots, et il vient de là aussi. Lorsqu'on veut prouver à quelqu'un, c'est aussi il y a un rapport amoureux entre.
Je suis amoureux des mots. Notre famille comptait quand même un poète, un chanteur, des compositeurs. Ma grand-mère a fait l'école des beaux-arts de Lyon, donc elle était peintre, et en même temps pianiste.
Est-ce que vous exercez toujours, vous êtes aussi formateur?
Oui, parce que pour bien vivre, il faut faire un métier. Donc, formateur est le métier que je me suis créé en étant d'abord webmaster au début. Et puis, je me suis rendu compte que webmaster, on était dans l'isolement total devant un écran et on a besoin de voir les gens. Et quand on aime les gens, il faut aimer les gens pour les former, on a besoin d'être au contact. Et autre contact, c'était la formation, de faire une transmission d'un savoir-faire vers des personnes qui ont besoin d'être accompagnées.
Mmh. Et j'aimerais bien savoir si c'est possible... Une explication pour SK Durman.
C'est l'initiale de mon prénom Serge, mm-hmm. et K, l'initiale d'un prénom d'origine arméno-géorgienne, mm-hmm. qui est Kirkor, et que je diminue en Kirk. J'ai une admiration pour Kirk Douglas. D'ailleurs, dans mon roman, j'ai fait une allusion à Kirk Douglas dans un des chapitres. Et seuls les initiés comprendront, parce qu'il faut connaître un peu la vie de Kirk Douglas, dont les origines sont de Géorgie. Donc Géorgie, non pas aux États-Unis, mais Géorgie dans le Transcaucasie. Et comme le roman se passe dans cette région-là, évidemment, je ne pouvais faire qu'un clin d'œil à ce comédien célèbre.
D'accord. Quel est le lien entre Il y avait plusieurs cultures, d'après ma lecture, en fait.
En effet, je suis un petit-fils d'émigrés, arrière-petit-fils d'émigrés. Mes grands-parents maternels sont venus en France en 1919. Donc on est des déracinés, j'appellerais des vivants par hasard, comme disait un certain Henri Verneuil. On a choisi cette terre par amour de la France, de la francophonie, puisqu'on a une famille francophone, et de francophilie. Et je suis issu de cette culture-là, de l'amour de la France. Mes racines sont aujourd'hui françaises, je suis né à Paris, dans le 15e arrondissement. Je suis très français, et j'ai ma culture étrangère, je dirais, d'ailleurs, cet ailleurs oriental, qui est un mélange, d'après mon test génétique, puisque j'ai fait un test génétique aux États-Unis, assez amusant, puisque je suis à la fois asiatique de l'Ouest, italien, moyen-oriental et un peu juif ashkénaze. Ça fait un peu sourire, ça fait un sacré cocktail. Mon épouse vient de le faire aussi, on a eu des surprises également pour mon épouse. C'est assez amusant, quand on n'a pas vraiment ses racines, puisque malheureusement, on n'a pas notion de nos vraies origines, puisque les archives ont disparu. Église incendiée, archives perdues ou bouche à oreille. Et c'est difficile de savoir à quoi se rattacher. Mmh. Et pour moi, mes racines, c'est la France, c'est Paris et aujourd'hui, c'est la Touraine.
Dans ces années-là, il n'y avait pas de frontières. Les gens, ils voyageaient et ils changeaient de région au gré de leurs envies, au gré des rencontres. C'est pour ça qu'on a tous des origines quelque part. Il y a un mélange extraordinaire. On sera étonné, même tout le monde doit mettre ça en avant vu ce qui se passe actuellement.
Tout à fait. Il faut savoir que nous sommes tous des mix de quelque chose, des mélanges. Et c'est le mélange qui fait notre richesse quelque part. Et se dire qu'on est 100% quelque chose de quelque part, c'est tout à fait erroné. On peut être de plusieurs couleurs. Et là est la richesse du mélange.
Oui, tout à fait. De toute façon, en France, elle est enrichie avec toutes ces vagues d'immigration, ce renouvellement, ce brassage. De toute façon, un peuple qui fermait un jour ou l'autre, même scientifiquement prouvé comme quoi, il risque de disparaître, paradoxalement.
Tout à fait.
Donc revenons, pourquoi ce titre ?
Pourquoi ce titre ? Alors à la base, le livre s'appelle Le Diable de Sildir, mais mon éditeur trouvait que le titre était un peu trop ésotérique. Diable faisait référence à quelque chose de maléfique, et Sildir, les gens ne savent pas où c'est. Alors Sildir, c'est à l'est de la Turquie, c'est aux endroits de Kars. C'est en fait un endroit où se trouve un château qui s'appelle Şeytan Kalesi, ou le château du diable. Et en fait, l'action de mon livre va commencer dans ce site, où le personnage central, qui s'appelle Tigran de Lambron, qui est un mixte également, puisqu'il est moitié irlandais, un quart russe, un quart arménien, va rencontrer son destin. Il va devenir le diable de Sildir, c'est-à-dire ce diable incarné, ce personnage qui va faire une action d'éclat, qui va en faire un héros malgré lui. Et le livre est d'abord un hommage aux victimes des guerres. On parle tous des guerres, on parle tous des tranchées. On a très peu d'informations sur 1920, l'après-guerre, et encore moins d'informations sur 1920 au Moyen-Orient, au Proche-Orient. La région du Caucase où les armées russes et ottomanes se sont affrontées de manière très sanglante. On connaît très peu cette histoire-là. On connaît évidemment le film Laurence d'Arabie. C'est un film très sérieux, Peter O'Toole. On a quelques idées de ce qui s'est passé à l'époque, mais on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé plus au nord. On connaît la Révolution russe. Certains ont lu peut-être Cholotov, Don Paisible. On a lu peut-être Cavalerie rouge d'Isaac Babel. C'est deux livres qui me servent parfois de référence. Mais on connaît très peu d'histoire. Et cette histoire-là, j'ai voulu la faire partager à nos lecteurs français, qui ne connaissent pas du tout ni la région ni la période, pour dire qu'il y a, dans cette période de 1920, c'est le creuset de toutes les crises du Proche-Orient. En effet, 1920, guerre civile russe encore intense entre les Blancs et les Rouges. Le tsar va être assassiné à Ekaterinbourg. Il va être sacrifié par les Anglais, puisqu'on sait aujourd'hui que les armées blanches étaient à 400 km de la pension et que le Premier ministre anglais a eu la demande du roi d'Angleterre de sauver son cousin. Et le roi d'Angleterre n'a eu comme réponse que du premier ministre anglais de l'époque. Non, votre majesté, nous ne pouvons pas nous permettre de sauver votre cousin. Puis nous avons Karl Marx qui est enterré à Highgate. Et je vais éviter une crise politique et sociale à Londres, une révolte ouvrière. Si jamais on sauve le tsar, on fait tomber la révolution, enfin créer une révolution en Angleterre. Je préserve le peuple anglais et je sacrifie votre cousin. Et on le sait aujourd'hui par les archives que les armées blanches auraient pu libérer le tsar à l'époque. Ils n'ont pas reçu l'ordre.
Vraiment passionnant, mais on va faire une pause musicale.
Tout à fait.
Et on va revenir après, on va écouter un extrait de Bernard Lavilliers.
Je connais qu'un seul endroit, mais c'est pas fréquentable. On joue ce blues-là, aussi noir que le sable. Je connais qu'une seule voix, qu'on est vraiment capable. C'est profond, plus fort que toi. N'est pas responsable. Mon amour, mon amour, C'est le blues d'Angola, mineur et solitaire, qui nous vient de Luanda. C'est un chant de poussière. Fallait partir, laisser là tes rêves et cette guerre, et l'or noir que tu n'as pas, pour tous ces mercenaires qui ont du sang sur les mains, jusqu'au bout de l'enfer. Qu'au plus vite, ne dis rien, sous cette pluie de fer. Tu n'en parles jamais toi, toi mon ami, mon frère. Qui as-tu perdu là-bas, couché dans la poussière? Je veux du sang pour 20 carats, des diamants, des rivières, pétroliers du Panama. Vos dollars m'exaspèrent. C'est le blues d'Angola, mineur et solitaire, qui nous vient de Luanda. C'est un chant de poussière.
De retour avec S. Cadermont pour son livre La forteresse perdue, le diable de Seldir.
L'histoire de la région est tellement mouvementée entre le génocide de 1915 ou des siècles aujourd'hui, 100 ans après, le problème kurde qui est aussi abordé, le problème de la création de l'État d'Israël qui est aussi latent, puisqu'à l'époque, les premières colonies juives se créent en Palestine. On a également le réveil de nouvelles nationalités, la Turquie de Mustafa Kemal, qui va émerger en 1923, et surtout la Perse, qui va connaître une révolution, parce que Reza va prendre le pouvoir en 1925. Puis évidemment, le pétrole, qui est le gros problème de l'époque, la géostratégie, qu'on vit également aujourd'hui avec les crises et les soubresauts du Proche et du Moyen-Orient. Une façon d'écrire l'histoire, c'est de servir du cadre historique, d'y placer des personnages complètement fictifs, comme le personnage central Tigrane de Lambron, qui n'a jamais existé. Alors Lambron a existé, il y a eu des princes de Lambron, mais je crois que la dynastie s'est attendue au XVe siècle, si mes souvenirs sont bons. Et Tigrane de Lambron est un des révélateurs de ce siècle douloureux, où un chef de guerre se retrouve à la tête d'une forteresse, d'une armée de mercenaires, et se pose question sur le sens de la guerre, le sens de l'engagement, avec autour de lui des officiers de cultures différentes, arméniens, juifs, kurdes. Et le problème aussi de savoir quel est notre destin. Et sa grosse blessure, sa grande blessure, c'est d'avoir un fils qui est disparu. Et la quête du fils est pour lui une priorité. Et d'autre côté, le fils recherche son père. Donc en fait, dans cette histoire-là, il y a une double quête. Un père éploré qui se pose des questions sur le sens de sa vie, qui n'a plus de famille, plus de, je dirais, de lien avec les siens. Il sait qu'il a un fils qui est encore vivant. Il fait tout pour le retrouver. Et d'autre côté, le fils, qui a une rancœur contre son père, il pense qu'il a été abandonné par ce père, parce que ce père s'est engagé dans des actions militaires, en abandonnant sa famille à la merci de l'assassin. Le fils veut quand même retrouver son père, soit pour régler ses comptes, soit pour avoir des réponses. Et il y a un double chemin. Alors, le premier tome de ce livre qui s'appelle Le Diable de Sildir est plutôt la présentation des différents personnages et la quête du père. On ne connaît pas encore qui est le fils. On a quelques réponses à 30 pages de la fin. On subodore qui est le fils, mais on le sera dans le tome numéro 2, qui lui est carrément le chemin du fils vers le père. Et le but étant évidemment, est-ce que les deux vont enfin se rencontrer ? Et puis les histoires croisées évidemment, puisque l'idée c'est d'avoir une présentation très détaillée, très fouillée de la psychologie des personnages, qui sont tous très tourmentés, qui sont tous en phase de choix à faire très importants. J'adore travailler sur la psychologie des personnages, rentrer dans les sentiments, les émotions profondes, pour en donner, je dirais, le plus possible, en laissant de côté peut-être les descriptions de lieux, d'endroits, de sites qui pour moi ne sont que des décors, et on travaille beaucoup sur les dialogues. D'ailleurs, quand j'étais reçu par Gilles Laurendon chez Régine Desforges à l'époque, j'ai été reçu parmi 1500 manuscrits, on était 7 retenus, et donc il m'avait dit à l'entretien, nous avons aimé vos dialogues sont très bien construits. Et il m'a dit, comment je réalisais un dialogue? Je dis, c'est très simple, j'écris les phrases, je les dis, si elles sonnent juste à mon oreille, je les finalise, je les parachève.
C'est vrai que les auteurs se basent sur la musicalité des mots, mais un roman, on n'a pas besoin. Déjà, vous appuyez sur l'histoire. Et si aussi vous tenez compte un petit peu de cette musicalité, est-ce que c'est indispensable de réunir plusieurs éléments ?
Alors, c'est une très bonne question. Il peut arriver qu'un jour, sur une inspiration extraordinaire, on puisse écrire 40 pages d'affilée. Et on se dit dans l'entourage, mais s'il peut écrire 40 pages en une journée, il aura fini en 3 mois. Et puis il y a des jours où on passe des heures entières, des semaines entières, sur une phrase, sur un mot qui n'accroche pas. J'ai toujours appris une chose par Jean Aubert qui m'accompagnait à l'époque, que la première phrase de chaque chapitre était très importante. Et pas extraordinaire, Eric Emmanuel Schmitt, que j'avais rencontré à la boîte à livres l'année dernière, a dit exactement la même chose. Je travaille comme un chef-d'œuvre, la première phrase de chaque chapitre. Parce que c'est elle qui va donner envie au lecteur de pouvoir lire la suite. Tatiana de Ronec, que j'ai rencontré également, qui faisait une lecture de Boomerang à Paris, avait dit une chose. Un livre se scénarise, il faut toujours terminer un chapitre sur une question, sur une attente, de façon à amener le lecteur à poursuivre sa lecture et ne pas le lâcher en cours de route. Donc c'est tout un travail de découpage scénaristique. Et un de mes amis m'a dit, mais ton livre serait un film, sans aucun doute. J'ai dit oui, parce que l'écriture que j'ai est très cinématographique. D'ailleurs, les amateurs de films et de livres verront dans le titre des chapitres que mon éditeur m'a imposé à titrer. Si vous lisez un peu le titre des chapitres, vous aurez quelques petites surprises. Et si vous avez une culture cinématographique, vous trouverez quelques références. À commencer par le chapitre 1 qui s'appelle Les Cavaliers, qui est à la fois un film et à la fois un livre. Le film est avec Omar Sharif. Et le livre est un livre de Joseph Kessel.
J'ai pas pensé forcément au film, mais j'ai pensé qu'à l'opéra, par exemple. C'est comme un opéra, en fait. Il y a la musique, il y a les mots, il y a aussi cette partie cynique aussi, qu'on peut laisser le libre cours de chacun à nourrir son imaginaire.
Tout à fait. Même dans un dialogue, le fait de utiliser tel ou tel mot pour susciter une réaction est très important. Ne pas utiliser « il dit, il répondit ». Il objecta. L'objection est plus forte que la réponse. C'est plus une réponse de défense. Une réplique, c'est un jeu de tac au tac. Alors, c'est vrai que quelque part, étant également un praticien de l'épée, puisque j'étais escrimeur pendant 15 ans, le dialogue dans une phrase d'arme est très important. Il y a l'attaque, la parade et la riposte et la contre-riposte. Et en fait, un dialogue, c'est à peu près ça. C'est un dialogue entre deux personnes qui joutent l'une contre l'autre.
La tradition, si on reçoit les auteurs, on leur demande de nous lire un petit passage.
Le chapitre 5 s'appelle « La chambre des officiers », qui vous rappelle un film de Duperron. « Un grand orage s'élèvera qui fera trembler la terre. Disant le colonel Mikhaïlov, détournant le regard de la fenêtre, au demeurant, il n'avait nul besoin d'observer au dehors, pour exprimer un sentiment qui ne concernait pas la météo. Sa préoccupation est toute autre. Et, carré dans son fauteuil, le prince n'avait pas semblé avoir saisi la portée de la métaphore. C'est toutefois l'idée que se fit le colonel en le dévisageant. Depuis quelques jours, Tigrane de Lambron semblait beaucoup moins attentif aux contingences militaires que d'habitude. Certes, il n'avait pas la réputation de verser dans l'exubérance, toujours mesuré dans ses paroles, il se livrait rarement préservant jalousement ses secrets, comme le retour de mission des Cosaques de sa garde rapprochée 3 jours plus tôt. Rien ne filtrait sur cette affaire. Depuis lors, le colonel a dû se contenter d'informations qu'il a obtenues par la bande, si tant est qu'elles ne fussent pas de simples bruits colportés par les uns et les autres.
On a constaté aussi qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont choisi la Touraine comme ville pour séjourner, pour créer. Est-ce qu'il y a une facilité? Déjà, vous nous avez expliqué comme quoi vous avez tombé amoureux de la ville de Tours, en tout cas la Touraine.
Alors déjà, la Touraine offre plus de sérénité que la région parisienne. On a moins de stress, on a moins de pression. Et n'oubliez pas que c'est la terre qui a vu naître les Balzac, Rabelais, Descartes, entre autres, hein, pour citer quelques auteurs.
Bah d'ailleurs, c'est l'année Balzac.
C'est l'année Balzac cette année, donc ça tombe bien. Quelque part, il y a aussi autre chose qui est important en Touraine, c'est qu'un éditeur tourangeau vous lit. Un éditeur parisien, vous envoyez votre manuscrit, il est fait à étagère restante. Je l'ai observé moi-même en retournant 3 feuillets de mon manuscrit. Et je retrouvais les trouver dans le même sens au retour de l'enveloppe. Je me disais que soit ils n'avaient pas ouvert ou ils étaient vraiment très consciencieux pour mettre les feuilles dans le sens inverse. Mais je pense qu'il n'a jamais été lu. Donc j'ai eu la chance de rencontrer donc Bernard Huette, qui est mon éditeur, qui, après avoir reçu en mail le fichier, me téléphone 7 jours après en me disant « je veux vous rencontrer ». C'était au mois de mai. Donc c'est tout récent puisque le livre n'est sorti qu'au mois d'août. Et entre mai et août, on a réussi à travailler sur le manuscrit, à corriger certaines petites choses en typographie, de titrer chaque chapitre et sous-chapitre. Je pense que si un éditeur lisait un petit peu ce qu'il reçoit, malheureusement, à Paris, ils reçoivent 600 à 500 manuscrits dans la semaine ou dans la journée. Je ne sais pas combien ils en reçoivent, mais ils n'ont pas à tout lire. Il est impossible de ressortir du lot. En Touraine, c'est possible. Alors évidemment, on n'a pas la même diffusion, on n'a pas les services marketing, on n'a pas les agences de presse, on n'a pas les services communication, on n'a pas les encarts publicitaires dans la grande presse médias. Et je ne vous cache pas que pour l'instant, on est très artisanal. Donc j'ai recruté une attachée de presse, j'ai une webmaster pour le site internet qui va être bientôt en ligne. J'ai recruté 2 relecteurs, donc l'un qui est en train de relire le tome 2, puis un autre qui relira peut-être les romans suivants, parce que j'ai en fait un 3e roman qui est prêt, un 4e qui est en cours. Je participe à 2 salons, au salon du livre de Noël de Loche, les 14 et 15 décembre. Plus récemment, par l'épée et la plume, je serai le 23 novembre à la mairie de Tours pour le salon du livre militaire. Et on m'a proposé de présenter mon livre et de dédicacer.
Est-ce que les faits que vous basez là-dessus, est-ce que ce sont des faits réels ou vous laissez votre imagination?
Alors, à part l'action d'éclat du prince de Lambron au chapitre 2, tous les faits sont réels. Les dates sont choisies avec soin, c'est-à-dire que j'ai pratiquement fait coïncider les dates des faits avec des dates d'événements qui sont réalisés en Perse et pas en Iran. Comme l'action des troupes du Karabekir, donc kémaliste sur l'est de la Turquie, qui ont été réelles. Et je me suis beaucoup documenté puisque j'ai retrouvé les archives en anglais du dit général. J'ai travaillé beaucoup de livres, donc David Shermer sur la guerre de 14-18, sur Arménie 1900, une collection de cartes postales d'époque. Un ancien livre de géographie de 1930 qui vient de chez mon grand-père, qui m'a servi également à voir les cartes de l'époque et les noms de l'époque, évidemment, et beaucoup de lectures. La biographie de Nicolas Depp, Henri Troya. Il faut lire beaucoup, évidemment. Mon objectif, c'est de recruter un documentaliste pour les romans à venir. C'est dur d'à la fois d'écrire. On n'a pas des rédacteurs, c'est pas possible chez nous. Le rédacteur, c'est l'écrivain. L'écrivain doit assister de relecteurs, de documentalistes, de webmasters, d'attachés de presse, de documentalistes qui vont faire un travail en amont et en aval pour laisser à l'écrivain le travail de création. Je ne peux pas laisser ce travail à quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Ce serait une escroquerie mentale de dire « j'ai signé un livre que je n'ai pas écrit ». Alors, est-ce que le but, c'est de vendre du livre et de faire du chiffre d'affaires ou c'est de toucher les gens? Je préfère toucher les gens, c'est des émotions, les faire rire, les faire pleurer, les faire réfléchir, plutôt que de faire du chiffre d'affaires, toucher des... On aimerait aussi, évidemment. On n'écrit pas non plus pour la gloire. Mais comme disait Jean Aubert à l'époque, vous avez 6000 écrivains à la SGDL, 600 vivent de leur plume et d'un métier à côté, et les autres n'en vivent pas. On peut le commander chez les bons libraires, boîte à livres... Savoir-être chez Patrick Pierrot, qui en a pris quelques-uns aussi. On peut les avoir, site internet professionnel. Les avis, j'ai déjà 7 ou 8 avis sur les sites internet. Et le message est le suivant. J'ai dévoré le premier tome, j'attends impatiemment le tome 2.
on a des libraires qui se démènent à Tours.
Exactement.
Donc vraiment, il faut passer par eux aussi pour aussi faire dire, voilà, il y a un livre qui nous intéresse, d'un Tourangeau.
Exactement, je dirais qu'un libraire, je suis pour le libraire aussi, hein, franchement, mais un libraire est important. Alors, il y a un libraire à Paris que je vais rencontrer bientôt, parce que les libraires sont les premières personnes qui vont recommander un livre à leurs clients. Et je pense que le libraire est un métier très important, parce qu'il aime les livres, sinon il ne ferait pas ce métier-là. Et s'il aime le livre, il va en parler autour de lui. Et le bouche-à-oreille, pour nous, est plus important que n'importe quelle page de pub dans un grand journal, un magazine. Pour le moment, je pense que c'est le bouche-à-oreille qui pousse les auteurs, qui les fait reconnaître. Et c'est important que les libraires, qui sont des professionnels de grande qualité, qui aiment les livres, bah nous défendent, et nous défendrons les libraires évidemment.
Dès que le livre résiste un petit peu à sa technologie sur des supports.
Pourquoi ? Parce que le livre, c'est un objet. Et quand vous voyez un objet, vous l'avez entre les mains, je ne vous dis pas l'émotion que j'ai ressentie le premier jour, c'était le 13 août, quand je vois le livre sur la table de mon éditeur, je le touche. Les matérialiser, c'est pas un fichier informatique. Alors on a évidemment deux versions, puisqu'on a sorti une version numérique et une version papier. Mais pour les versions numériques, on a dû en faire deux. Et que pour l'instant, les versions papier se vendent beaucoup plus. C'est 99% du papier et 1% numérique. Je suis amoureux du papier. À l'époque, mon grand-père avait une grande bibliothèque et je couchais, moi, dans le canapé-lit de la bibliothèque. Évidemment, le soir, quand je n'avais pas à dormir, je piochais un bouquin sur l'histoire de Rome, une encyclopédie qui y est. C'était parti pour un voyage dans le temps et dans l'espace.
On sent dans les exemples, il y a aussi l'attachement à l'histoire, en tout cas.
Tout à fait. Depuis tout jeune, mon livre de chevet, c'était Ivanhoe de Walter Scott. Je suis un amoureux du Moyen-Âge. J'ai pratiqué l'escrime, l'escrime artistique. Donc j'ai une passion pour tout ce qui est le passé. Parce que je pense que tous les déracinés ont ce besoin de se raccrocher à quelque chose. On a des trous dans notre arbre généalogique. On a besoin de connaître et de comprendre. Et comme on est des gens du voyage, sans être péjoratif, hein, quand on dit voyage, des gens, des nomades, des gens qui ont quitté une terre pour d'autres terres. Donc cette curiosité d'aller vers les cultures. Par exemple, je suis allé au Koweït, où ma femme travaillait à l'époque. Notre gardien, qui était d'origine iranienne, gardien de l'immeuble, nous a amené du thé. Il a posé le plateau par terre. Enfin, je me suis assis par terre pour le boire, le thé. Je ne me suis pas assis sur une table pour le boire à l'occidental. Je me dis, s'il l'a posé à terre, c'est que lui a l'habitude de s'asseoir par terre et le boire. Donc je suis assis par terre, j'ai bu le thé. Et c'est le meilleur thé que j'ai jamais bu de ma vie.
L'histoire, on ne peut qu'avancer et puis essayer de connaître l'autre.
Tout à fait. Rencontrer l'autre, et j'aime pas le mot autre, parce que le mot autre, pour moi, est réducteur. Rencontrer la personne que j'ai en face de moi. Ce serait beaucoup plus positif de dire que c'est une personne qui vit en face de moi, qui est en face de moi, plutôt que autre.
Bah, avant de discuter avec lui, c'est l'autre. Et après, lorsqu'il y a un dialogue, il y a une présentation, à ce moment-là, il y a...
Tout à fait, mais nous sommes tous liés, quelque part, par des liens invisibles. Et si on fait un peu de quantique, on sait que nos relations... ne sont pas du vide. Il y a une énergie entre nous, invisible, indicible, qui fait que les liens, un simple regard entre deux personnes crée une connexion. Même sans le regard, le fait d'être devant une personne crée une connexion. On sait intuitivement si on a envie d'entrer dans son univers ou on n'a pas envie d'aller plus loin.
On est passionné de le lire puis de le partager avec nos auditeurs. Est-ce qu'il y a un site internet ?
Est en cours de réalisation. Il s'appelle skdurman.com. Et puis, comme je suis un peu juré, j'ai aussi déposé une marque à l'INPI. Il fallait aussi se prémunir de copistes. Le site est en cours. Ma graphiste, donc Aurélie Ravon de Pilo Studio, est en train de le finaliser. On a fait les liens entre les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram qui permettront de connecter l'information des réseaux sociaux vers le site internet pour avoir du contenu récurrent.
Merci Escadou, moi et à très bientôt sur les ondes d'RFL 100. Merci, au revoir.
Merci à vous.
RFL Reportage, c'est fini pour aujourd'hui.